Donc Violetta Parra, une artiste musicienne, plasticienne, chanteuse engagée, membre également du PC chilien, du Parti communiste, elle a parcouru le Chili en y glanant des couleurs et des sons, des musiques traditionnelles, des témoignages artistiques, socio-artistiques, pourrait-on dire. Ceci, ce sont des remarques qui sont appelées à être démenties par vous, ici, autour de cette table, vous qui l'avez connue d'une certaine manière. On reviendra là-dessus. Violetta del Carmen Parra Sandoval, née le 4 octobre 1917, dans le sud du Chili, une enfant de la balle, pourrait-on dire, puisque, on peut le penser, à tout le moins, puisque sa mère, couturière, guitariste et chanteuse, et son père, professeur de musique, ont inspiré, peut-être, les passions futures de Violetta Parra. Elle chantait « Gracias a la vida »,« Merci à la vie qui m'a tant donné », elle qui, à l'aune de ses 49 ans, s'est donné la mort, le 5 février 1967. Il lui fallait peut-être énoncer tout ce qu'elle traversa, tout ce qu'elle découvrit. Elle qui s'enfuit au gré du Chili, des Chili, pourrait-on dire, s'imprégner des musiques traditionnelles, du sens populaire commun, des couleurs et des sons, surgit des entrailles de ce pays contrasté et complexe. Elle s'enfuit également en Europe, en Pologne, en Union soviétique. Elle, à l'instar qui était, à l'instar de Victor Jara et Pablo Neruda, membres, comme on l'a dit, du Parti communiste chilien. Dès 1954, donc, Violetta Parra parcourt l'Europe. Elle séjourne pendant 2 ans en France, où elle enregistre ses premiers disques de musique traditionnelle et ses premières compositions personnelles. Elle réside également, et là-dessus, c'est là-dessus qu'on va mettre le focus, à Genève, entre 1963 et 1965, avec son amoureux, Gilbert Favre, anthropologue et musicien, dans une maison qui a disparu, laissant sa place au Collège Voltaire, comme le rappelle désormais une plaquette inaugurée au printemps en présence de la présidente chilienne, Michelle Bachelet. Violetta Parra, qui s'est donc ôté la vie en 1967, aurait eu 100 ans cette année, et c'est là l'occasion de revenir sur une histoire tragique, passionnelle et passionnée, et c'est là l'occasion d'une soirée, gracias a la vida, ce vendredi 24 novembre 2017, ici à Genève, précisément à l'Ola Franck Martin, 3 rue de la Vallée à Genève, avec une table ronde qui sera organisée, et un concert hommage. Et ces informations-là, les organisateurs, toutes ces choses, on les trouve sur le site www.artisticamente.ch. Alors merci à vous toutes et tous, ici réunis, quelques heures avant cet hommage qui lui sera rendu. Et commençons, si vous le voulez bien, par un petit tour de table dans lequel vous allez vous présenter, vous en tant que personne, et puis vous, dans le rapport que vous avez eu avec Violetta Parra, artistiquement, humainement, amicalement. Alors je ne sais pas par où on commence.
Oui, alors merci beaucoup William, on a vraiment la chance, le privilège exceptionnel d'avoir aujourd'hui avec nous des personnes qui ont connu Violetta Parra, qui ont développé des rapports amicaux avec Violetta, qui ont apporté beaucoup de choses à Violetta aussi. Alors je les présente brièvement. Nous avons Tito Guisado, Émile Hildebrandt, Anne Divorn et Claudio Venturelli. On espère que Pascal Hollenweg va nous rejoindre en cours d'émission. Comme tu l'as dit, c'est une journée d'hommage aujourd'hui à Violetta Parra, organisée à Genève. On célèbre le centenaire de sa naissance. Et puis, nous avons organisé, dans le cadre de Filmar en América Latina, un hommage en 2 parties, une table ronde et puis un grand spectacle musical qui a été mis sur pied par l'association Artisticamente, un très beau projet coordonné par Francisco González. Il y aura un spectacle qui met en valeur la vie et l'œuvre de Violetta, avec la participation d'un pianiste très, très renommé, Thomas Henshaw, et la participation aussi du ténor Emiliano González Toro. Dans cette table ronde, nous aurons vraiment la chance de pouvoir entendre les personnes que nous avons avec nous ici pour cette émission, qui ont connu Violetta. Et puis, il y aura une petite partie introductive avec une discussion sur la vie de Violetta avec Claudio Boltzmann. Alors, je dis quelques mots sur Claudio Boltzmann. Il est chercheur et enseignant à la Haute École de Travail Social, chargé de cours à l'Université de Genève. Il est lui-même exilé chilien. Il est arrivé en 1978 à Genève. Il a écrit sa thèse sur la migration chilienne en Suisse. C'est un sociologue de la migration. Il a écrit en 2007 un livre sur les communautés latino en Suisse et à Genève, la Suisse à l'heure latino. Et puis, comme tous les jeunes de sa génération, il a chanté des chansons de Violetta Parra, il s'est imprégné de l'univers de Violetta Parra, ça faisait partie de sa vie quotidienne, et il s'est intéressé en tant que chercheur à des aspects culturels de la migration, aussi à toutes les ressources créatives qu'il y a dans l'expérience de la migration. Donc il va nous dire quelques mots sur Violetta avant qu'on puisse entendre nos amis qui sont là avec nous.
Merci Emmanuel. Alors, qui est-ce qui aimerait commencer par se présenter?
Puisque tout le monde me regarde,
Bien, voilà.
je ne veux pas refuser cet honneur. Mon nom, c'est Claudio Venturelli. Je suis exilé chilien, enseignant au cycle de Genève et à différents autres endroits dans le monde, mais surtout ma carrière professionnelle a été ici à Genève. Lorsque j'ai été accueilli par la solidarité suisse vis-à-vis des réfugiés du régime du criminel Pinochet. Mais avant cela, j'ai connu ici, dans les années 63-64, j'ai connu Violetta et Gilbert Favre. Et c'est là que nous avons établi un lien très fort d'amitié avec eux, avec elle, avec sa famille, avec Angèle, avec Isabelle, avec ses petites filles aussi. Et je suis content de pouvoir dire ici que c'est une manière de restituer à Violetta Parra quelque chose qu'elle n'avait pas au Chili, de restituer cette valeur humaine qu'elle avait. Nous n'avons pas connu la Violetta, grande artiste, la poétesse infinie, comme on l'appelle au Chili, l'étoile du firmament de la poésie latino-américaine. Non, pas du tout. Nous avons connu une Violetta très, très humaine, particulièrement proche de la réalité des gens qui l'approchaient. Et les gens qui l'ont connue à ce moment-là ont aussi gardé cette image. Parce qu'il faut dire que quelque chose qui me dérange, qui me gêne, c'est que Violetta, après sa mort, est devenue quelque chose d'autre. Violetta, lorsqu'elle était vivante, la bourgeoisie chilienne ne l'appréciait pas du tout. Les artistes chiliens non plus n'avaient pas vis-à-vis d'elle la vision qu'aujourd'hui, ils donnent l'impression de donner, d'avoir donné à ce moment-là. Je sais que Violetta souffrait un peu de cette espèce de retrait ou refoulement qu'on faisait pour elle. Mais son côté humain, son côté engagé, son côté solidaire, son côté particulièrement chaleureuse vis-à-vis des personnes qui l'approchaient, est à souligner. Et c'est ça qui m'intéresse le plus de dire maintenant sur elle.
Alors, juste, quelles étaient ses perceptions de la bourgeoisie que tu évoques?
Mais que je veux juste ajouter par rapport au commentaire qu'il vient de faire, que quant à cette non-reconnaissance
voilà.
au Chili,
non, c'est
le... Parce que moi, je l'ai connue, je l'ai vue sur le bateau qui partait vers l'Europe, sur cette photo qu'on voit dans le livre d'Angèle. Et moi, j'allais au Chili, j'étais tout nouveau, je venais découvrir à travers Claudio le Chili, j'allais, c'était un événement dans ma vie, et ça, c'était à Buenos Aires. Et j'ai rencontré Gilbert, là, par le plus grand des hasards, et quand je suis arrivé au Chili, une semaine après, 10 jours, j'avais de nouvelles informations, Violetta Parra. Par Gilbert, parce qu'elle était sur le bateau, je ne l'ai pas vue. Donc pour moi, c'était quelqu'un d'important. Et quand je suis arrivé au Chili, exactement ça, j'en ai parlé. On la connaissait, mais on ne voulait pas en parler. Voilà, donc c'est juste
D'accord.
pour compléter.
Voilà. C'était le sens de ma question, justement. C'était de
je,
quelle manière
je l'ai vécu,
vous êtes allé ressentir.
Tout jeune, enthousiaste.
Ouais. Ok. Alors, on continue peut-être le tour de table des présentations.
Moi, oui, moi je suis Anne Vivande.
Tu peux pas mettre
quand j'ai connu,
oui.
j'ai connu Gilbert bien avant Violetta.
Il n'y a pas.
Parce que quand je suis arrivée à Genève, j'ai rencontré Daniel Divande que je vais épouser assez vite quand même. Hein. Et puis, pour échapper à ma famille, entre autres. Et puis, Gilbert, Daniel et un autre. Troisième que tout le monde appelait Prévert, parce qu'il faisait des poèmes, ils étaient inséparables les trois. Celui qui s'appelait Prévert, c'est un du nom, mais il est mort assez vite dans cette fratrie, c'est pas une fratrie, mais presque.
Une amicale.
Ouais. Et puis, Gilbert a été notre témoin de mariage. Et déjà, Gilbert, c'est aussi tout un personnage. Hein. Parce qu'on habitait au 15 rue Voltaire, où on avait l'électricité, l'eau froide, mais pas de bidet, pas de baignoire.
Ça, c'était dans au début des années 60.
58.
58, déjà, d'accord.
Oui. Ouais. Et puis, après, Gilbert a vécu avec Griselle d'Israël, qui était enceinte du troisième enfant. Et là, les violences institutionnelles ont commencé, à savoir que je partais voir ma mère à Neuchâtel avec ma petite fille de 8 mois qui dormait à côté de moi dans le train. Et il y avait 4 messieurs cravatés très chics qui étaient juste en face, qui parlaient des difficultés de leur métier. Et à un moment donné, ils ont dit, lundi, on va au 15 rue Voltaire et on leur prend leurs enfants. Et ça, pour moi, ça a été d'une violence terrible. Donc, j'ai téléphoné à Daniel. J'ai dit, écoute, voilà ce qui est prévu par... C'était la SPMU, je ne sais pas comment ils s'appelaient à l'époque. Ils estimaient qu'on n'était pas capable de s'occuper de nos enfants. Et Griselle, il dit, salut. Très peur. Et le lendemain, elle est partie. Elle a fait des valises. Elle est partie avec ses enfants en Allemagne, où elle va commencer à se prostituer, avant de se prostituer. Et puis Gilbert, ben, il était tout triste, quoi, comme d'habitude, tu vois, un peu, avec son gros accent.
Ouais. Puis, c'est en 1958.
Oui,
58-50. Donc Violette n'était pas encore dans le paysage.
Non, elle n'était pas encore. Elles ne se sont pas rencontrées, les deux.
Donc Violette Appara et Griselle d'Israël, malheureusement,
ne se sont pas rencontrées. Ouais. Ça aurait pu donner quelque chose.
Effectivement.
Parce que Griselle d'Ispeignet, elle écrivait... Elle chantait, elle faisait beaucoup de choses. Gilbert, il livrait les express dans les ambassades. Et puis avant de partir dans l'ambassade, il allait vite vers Griselidis pour lui demander de faire un dessin. Et Griselidis, elle dessinait les enveloppes que Gilbert reprenait puis qu'il amenait à l'ambassade, machin, un truc. Enfin, il y avait une collaboration artistique entre les deux. Et à ce moment-là, Gilbert voulait faire de la musique. Et on lui disait, non, tu seras carreleur. C'était pas possible de penser qu'il pouvait faire de la musique.
D'accord.
Il était trop pauvre.
Ouais. On va revenir après sur les conditions, justement, notamment les conditions dans lesquelles elle arrive à Genève et elle s'installe au 15 rue Voltaire, oui. Violette Appara. Du coup, on continue le tour de table.
Alors, je suis Milo Hiltzbrand. Emile me va très bien, mais je crois que Milo, c'est par là que je l'ai connu, j'ai réussi à me faire un prénom. Non, mais je reviens sur... Donc j'ai vu, j'étais là, c'est là que j'ai connu Gilbert, par un hasard, des plus grands des hasards, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais là, ça m'a toujours laissé songeur. À Buenos Aires, je rencontre Gilbert qui me dit, écoute, ce soir, il y a Violetta qui peint pour le Festival de la Jeunesse. Donc je reviens sur l'idée, c'était quelqu'un qui était très apprécié. Hors du Chili, elle partait pour le Festival de la Jeunesse, on invitait quand même pas n'importe qui. Et là, je l'ai vu partir sur le bateau, j'ai parlé avec Gilbert qui m'a emmené ensuite dans une école de tango, et puis, là il était perdu, Gilbert, il n'avait pas d'argent, il était hébergé par un copain que j'ai rencontré là par hasard, un copain à lui, un colocataire. Et là, il n'avait pas les moyens de rentrer à Genève. Et c'est le directeur de la Comédie de Genève, M. Vachou, qui a payé son voyage, ce que j'ai su après, quand je l'ai retrouvé 6 mois après à mon retour. Et quand je l'ai revu 6 mois après, ici, au mois de janvier, il travaillait à la Comédie pour faire des montages comme manutentionnaire, pour rembourser le voyage que Vachou lui avait payé. Et juste enfin, et alors, je vais le voir. Et donc à la Comédie, il était là. Et puis il me dit, ah, mais écoute, tu vas connaître Violetta réellement. Elle est juste en face, à la galerie, il me semble que c'était Blanco.
Oui.
La galerie Blanco, qui était juste à la rue Candolle.
Philosophe.
Non, c'est quelle rue, là, qui... Oui, à la Comédie, enfin, peu importe. Et juste en face...
Non.
Boulevard des philosophes. Boulevard des philosophes.
Il y en a un qui connaît
Genève. Et là, elle était juste en face. Non, je suis allé, j'ai rencontré cette dame comme ça. Puis voilà. Et de là, notre lien avec Violette, parce que bon, les Chiliens étaient intéressés, les Espagnols aussi. Hein, et puis voilà, ouais. Puis on a fait des fêtes, et après, on se retrouvait tous les samedis, ceux qui voulaient, on se retrouvait souvent là, à cet endroit-là, où il y avait les polotros. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que les polotros ?
Non, moi je laisse dire le chilien, là, parce que moi je sais pas.
Non, je sais. Donc, Violette faisait tous les samedis une énorme casserole de haricots, secs. À l'époque, il n'y avait pas tellement la possibilité d'acheter les haricots coco qui sont merveilles. Alors, elle faisait tremper les haricots et elle préparait des immenses casseroles qui n'avaient pas un grand raffinement gourmand, mais une quantité impressionnante pour des jeunes étudiants qui venaient à l'Université de Genève, de l'Université de la Maison Centrale de la rue Candolle. On savait, alors, on va chez Violette. Et les gens savaient que la seule condition, c'était de venir, d'être là, d'être aimable, d'apporter sa boisson si on avait envie de boire, et que le repas était servi par Violette. Et puis c'était les samedis des porotos de Violette qui a été un symbole à un moment donné pour tous les jeunes un peu décoiffés, et un peu barbus déjà, un peu, qui de l'époque vivaient un peu sur cette allée un peu étrange, un peu bizarre, dans cette... sur plus de la bohème, plus ou moins, on mettrait toute petite baie et toute grande baie. Comment ça s'appelle ? Comillas. Entre guillemets. Parce que Violette chantait, faisait chanter, jouait des instruments, peignait en même temps qu'elle donnait à manger, brodait ses sacs, parce que c'est des énormes sacs, c'est pas des toiles que l'on brode, parce que...
Non, c'est des arpillères,
c'est des sacs que l'on... Qui, quand il n'y avait pas assez, alors elle faisait une couture comme ça tout le long, et l'arpillère devenait un seul rectangle de différentes couleurs. Et c'est là qu'elle recevait tous ces gens qui... Elle recevait aussi, elle faisait apprendre aussi, pendant qu'on était dans ces séances-là, qui commençaient à... midi, 1h, 2h de l'après-midi, qui durait jusqu'à n'importe quelle heure, puisque l'endroit s'est prêté à faire du bruit sans qu'il vienne des perturbateurs en uniforme, au sens uniforme, à nous faire taire. Et c'était magnifique. C'était des journées, des après-midi absolument inoubliables. Et les gens qui vivaient ça sentaient qu'il y avait là une chaleur humaine, une qualité de relation qui n'existe pas ailleurs.
Ok, alors je vous propose qu'on conclue, qu'on termine ce tour de table, et ensuite on entrera dans le vif du sujet avec des questions, justement, quelques anecdotes et quelques thèmes que l'on va aborder. Allons-y.
Alors, moi je m'appelle Tito Guisado, je suis espagnol, et puis je suis rentré d'Espagne en 1959, mois de mars. Et puis, je fais connaissance avec Milo, avec Emile. Milo m'a présenté Claudio. Et puis Claudio m'a dit, écoute, ce soir, il y a une artiste chilienne qui fait un concert à l'université, il faut y aller, il faut... Et puis, bon, moi, je me suis préparé pour aller le soir, écouter cet artiste qui chantait. Et franchement, ça m'a déçu énormément, parce que Violette, à l'époque, elle avait une voix. Ya, 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 señor presidente. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi comme artiste chilien? Mais c'est pas vrai, là. Mais après, le soir, on s'est retrouvés à la rue Voltaire. Et là, je me suis dit, je me suis trompé de personnage, parce qu'elle était vraiment super sympa, et puis... Alors, bon, moi, je rentrais d'une Espagne à l'époque franquiste, où nous, la jeunesse, on connaissait rien du tout. Et tout d'un coup, je me trouve le 1er mai suivant, on arrivait ici, avec Violetta, à la tête d'un cortège, là, en train de crier « Franco cabron, Franco cabron !» et des injures contre le régime. Et puis moi, je suis parti en courant parce que je me suis dit, j'ai quand même la famille en Espagne, et puis je n'étais pas habitué à ça. En Espagne, il n'y avait pas de... Alors j'ai eu franchement peur. Et puis Violetta, il m'a pris comme ça, il m'a tiré les oreilles, tu restes là avec moi, et tout. Et puis, une fois lancé dans l'affaire, en train d'écrier et porter des pancartes, etc., on dirait que tu te dégages de ces peurs qui te tournent autour du corps. Et puis voilà, après, on était jusqu'à la plaine de Plainpalais. Et ça finissait le cortège là-bas. Et puis on a crié, et puis on a fait un petit peu le fou, quoi. Et puis bon, moi j'ai encore des autres trucs à raconter. Je ne sais pas si je le raconte maintenant.
Alors, concernant la guerre d'Espagne, quelle était justement la vision qu'avait Violeta Parra par rapport à ça? Quand ça
avait été. Ah, mais elle était contre le régime franquiste, ça c'est clair. Il m'a gueulé, il me disait, mais vous faites rien, mais qu'est-ce qui se passe en Espagne? Vous bougez pas. J'ai dit, mais Violetta, tu connais pas le régime là-bas. Tu allais dans un bistrot boire un café et tu voyais des panneaux, des écriteaux comme ça, interdiction de parler de politique, etc. On était très surveillés, tu vois. Alors, mais petit à petit, pas uniquement avec Violetta, avec Milo, avec Claudio, je me suis habitué un petit peu à ces manifestations. Et puis un jour, quand tu as eu ce syndicaliste espagnol Grimau, qui a été fusillé par le régime franquiste, là il y a eu une manif à Genève terrible.
Oui.
Non. Et ça finit, c'était en 1963. Ah. Et puis ça finit devant le consulat espagnol, qui était là derrière, juste à la rue qui traverse là. Et alors, moi je passais, comme ça par hasard, chez Violetta, avant la manif, et puis j'ai vu que Violetta, elle avait deux, trois caisses de bouteilles de Coca-Cola, vides. J'ai dit, mais Violetta, c'est pas possible, tu vois pas de Coca, non? Mais, non, tais-toi, tu verras tout. Alors, aide-moi. Et puis elle avait des boîtes de peinture. Elle remplissait les bouteilles, bouchon, la bleue, le jaune, le rouge, de toutes les couleurs. Et alors elle a mis ça dans une espèce de panier comme ça, et puis elle est partie à la manif avec soi, devant le consulat espagnol, et moi à côté de Violetta. Et moi, Violetta, que me van a fusilar, Violetta, que tengo la familia en España, cállese, huevón, me decía. Usted venga conmigo y tal. Me agarraba del brazo así. Y delante del consulado fue ya una manifestación, de lance de pierre y tout. Et tout d'un coup, Violetta qui sort ses bouteilles de Coca-Cola, plein de peinture à l'intérieur, et lance, boum! Il commence à lancer contre la façade
du consulat,
parce que le consulat était au rez-de-chaussée. Et il y avait de toutes les couleurs. Alors, au point que, au moment donné, j'avais vu un petit peu les tableaux de Violetta chez elle, et je me suis dit, ces personnes, elle est en train de manifester contre un régime franquiste, mais en même temps, elle est en train de faire un tableau. Un tableau, parce qu'elle me disait, donne-moi du bleu maintenant. Putain, du bleu. Et paf! Alors, le rouge, maintenant, paf! Et il lançait. C'était horrible, la façade de ce consulat. Le lendemain, il y a eu. Bon, ils ont mis des barrières, la police avait mis des barrières, et puis la police était arrivée en train de taper un petit peu, et puis bon, ben, chacun est parti de son côté, et puis on s'est retrouvé chez Violetta le soir, avec une bonne bouteille là-bas pour fêter un petit peu notre passage au consulat espagnol. Et ça, c'est une des anecdotes, enfin, des souvenirs que j'ai de Violetta. Elle était en première file en train de lancer ses bouteilles.
Donc c'est important pour elle d'être dans l'action également. Elle a par ailleurs fait une grande tapisserie qui s'appelle La Révolte des Paysans, qui rappelle ça, hein, qui rappelle vraiment, dont elle parle en disant que c'est un souvenir de son grand-père qui était paysan, qui subissait vraiment des conditions terribles et qu'elle, là aussi qu'elle voulait appeler à ce que ces paysans se révoltent et vivent debout.
Je sais que le gouvernement espagnol avait une police, il y avait des photographes qui faisaient des photos, et puis quand tu allais en Espagne en vacances, tu te faisais choper à la douane. Mais une chose qui était assez curieuse, c'est que le consulat a déménagé à la rue Pestalozzi, 8e étage.
Ils se sont bien sécurisés. Là, si elle revient.
Les bouteilles de coca et la violetta n'arrivaient pas à 8e étage.
Oui, non, je voulais ajouter justement à cet instant que Tito vient d'évoquer, parce que le jour de l'exécution de Julián Grimau, c'était une nouvelle qui était contrée par toutes les opinions publiques, les gens, il y avait des manifestations dans différents pays pour défendre, pour protéger la vie de Julián Grimau, qui a été d'ailleurs le dernier crime politique de Franco, loin de là le premier, mais le dernier. Et Julián Grimau a été exécuté dans l'après-midi. On a appris la nouvelle dans l'après-midi. Et je venais d'arriver à Genève, je venais du sud de la France, et j'avais entendu dans le train que Julián Grimau avait été exécuté. Donc j'ai filé directement de la gare à la rue Voltaire, et puis j'ai trouvé Violetta. Et quelques heures, je ne dirais pas que c'est quelques jours, quelques heures après, Violetta a composé les paroles de cette merveilleuse chanson qui s'appelle Que dira el Santo Padre, que peut bien dire le pape, hein, qu'on est en train d'égorger ses colombes, etc. Et elle était, mais dans un état d'une telle rage, elle écrivait, mais on sentait qu'il y avait. Et puis c'est sorti et c'est devenu une des chansons les plus magnifiques de Violetta, par son engagement politique, par son engagement humain vis-à-vis de cet homme qui avait été assassiné, qui va beaucoup plus loin que la simple beauté ou gentillesse ou poésie qui peuvent avoir d'autres chansons qui ont été beaucoup plus mises en avant par les gens qui se sentent plus ou moins occupés de cacher Violetta. Il y a d'autres aspects de la musique de Violetta qui ont été mis en avant, alors que celui-là, c'en était un.
Moi, je peux dire une chose, excuse-moi, c'est que... J'ai connu Violetta, mais je n'étais pas au courant de le personnage, l'importance de ces personnages. Je traitais Violetta comme un copain, comme une copine, comme ça, comme quelqu'un, une amie. Mais je suis allé, après faire connaissance avec Violetta, ici, je suis allé en Espagne en vacances, et puis je parlais à ma famille, à mes neveux, à ma nièce et tout, quand je dis que je connaissais Violetta, puis je parlais, je buvais des verres avec elle, mais c'est pas possible. En Espagne, Violetta, c'était quelque chose de grandiose. Les disques de Violetta se vendaient, mais comme des petits pains, hein, dans le commerce, oui, c'était un personnage très important. Ouais.
Il n'y avait pas de censure qui s'exerçait au moment justement de cette période franquiste. On pouvait quand même trouver des disques et des enregistrements des chansons de Violetta.
C'était plus tard. Ouais.
Et alors moi je me suis dit, je la trouve une personne très très simple, très mauvais caractère, hein, oui, attention, oui, parce que Violetta, oui. Hein, elle avait une mala hostia, quand elle se fâchait, il fallait faire attention, ouais, mais bon. Je finis avec ça. Voilà. Oui. J'avais un frère qui travaillait dans une maison des maîtres ici, chauffeur, valet de chambre, gants blancs, servir à table et tout. Ouais. Et puis il avait la clé de la cave avant. Alors moi j'avais parlé des réunions avec Violetta. Écoute, j'ai des amis chiliens et tout, elle fait à manger, une spécialité chilienne et tout. Ouais. Et puis mon frère, il descendait à la cave comme il avait ça. Il me donnait des vins, mais alors. Et Violetta, elle aimait bien picoler Violetta, attention. Hein. Elle disait, Tito, ça c'est grandiose, mais qui c'est ton fournisseur? Et je dis, mon fournisseur, c'est mon frère, mais tu dis rien, hein, parce qu'il a la clé de la cave, il peut se faire. Alors, de temps à autre, encore deux, trois bouteilles, Et puis voilà, c'est super et tout, c'est fantastique, dit-on. Si je deviens président de la Confédération, je veux te faire ministre de l'agriculture et de la viniculture et tout, parce que tu nous fournis des vins. Super. J'ai dit, ouais, bon, ben, c'est mon frère. Mais un jour, mon frère, il a souhaité connaître toute l'équipe là-bas. Manger le porotos. Et puis je lui dis, non, mais ça coûte, non, ça vaut pas la peine, non. Et il a insisté tellement qu'un jour, j'étais obligé de lui dire, bon, mais viens avec moi. Et quand on était allé à la rue Voltaire, tiens, ce machin-là, pas de porte, il y avait des aspillères comme pour rentrer comme ça, il rentre. Mon frère, il n'y avait pas de lumière, il y avait des bougies. Et puis il voit ces casseroles des porotos, ces haricots là, énormes comme ça. Et puis mon frère, il a piqué une rogne, il m'a dit, comment je te donne des super vins et vous mangez ça avec, vous buvez ces vins avec ces espèces de machins, c'est horrible ça. C'est... Violetta qui était à côté, il a entendu ça. Il a pris mon frère comme ça, par le bras, il a dit « Qu'est-ce que tu as contre mes porotos, espèce de salopard, fous le camp d'ici et tout !» Et puis, je dis « Violetta, calme-toi, hein, parce que c'est notre fournisseur, et puis c'est fini après. Hein. » Et puis, effectivement, il a foutu dehors. Il a foutu dehors, hein. Allez, fous le camp. Et puis, je dis « Tu vois ce que tu as fait, Manon ? Mon frère, il ne va pas nous fournir encore du vin. » Et c'était la réalité. Mon frère, il a dit, non, 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 pas. Et puis là, je fais un petit peu chantage à mon frère. J'ai dit, si tu ne nous fournis pas, moi, je parle à ton patron. Et comme ça, mon frère, il m'a fourni encore des vins, mais pas de très bonne qualité. Et puis, la Violetta, qui connaissait bien, ah, oh, c'est pas le même. Hein. Oui, mais c'est ta faute. Tu l'as gueulé, mais tu vois le résultat. Eh ben, ouais. Ça, c'est une anecdote qui était très...
Absolument. Juste parce qu'il a très bien imité la voix de Violetta. Et si Violetta, c'était pour sa voix qu'elle était connue, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui là. Non, c'était quelqu'un, c'est un personnage. Poète, musicienne, politiquement engagée. La voix, effectivement, je pense qu'il l'a très bien imitée.
Une voix au perché.
Elle n'avait pas une voix qui pouvait enthousiasmer. Je peux tout à fait comprendre sa première réaction.
J'étais choqué. Hein. Ah, oui. Quand j'ai entendu ça à l'université, elle était en bas, il y avait tout le monde. Et tout. Señor presidente, yo me tengo que ver. C'est pas possible, c'est quoi ça?
Je voulais qu'on revienne sur donc l'engagement. Évidemment, on va déborder de ça, mais il y avait deux anecdotes. Alors, Indivan, tu parlais tout à l'heure du fait que Violetta Parra et Gisèle d'Israël ne se sont pas croisées. Elles ont quand même partagé cette forme d'engagement, pourrait-on dire. Est-ce qu'on peut dire de Violetta Parra que cet engagement, il est constant au travers, je veux dire, même s'il n'est pas annoncé au travers de ses œuvres, il est présent à chaque fois qu'elle brodait, à chaque fois qu'elle composait une chanson. Peut-on dire que ça fait vraiment partie intrinsèquement de sa personne?
Son engagement, tu dis, ouais. Bien sûr. Moi, je pense que tout est dirigé par là. Et puis, il y a ces sentiments quand même, quand on est très proche. En tant que femme, c'était pas toujours facile de l'aborder.
D'accord. Et comment ça se fait, toi?
Parce qu'elle était jalouse. Hein. Très, très jalouse. Et Violetta, elle avait deux armes pour elle. La première, c'est la guitare. Et la seconde, c'est la guitare. À savoir que la première, c'était pour exploser tous ces sentiments, tous ces engagements extrêmement forts, hein, par la parole, peut-être pas par sa voix, mais elle composait quand même les mélodies. Mmh. Et puis, l'autre aspect de sa guitare, qui est aussi une arme pour elle, c'est que quand il y a des dames, par exemple, qui viennent un peu voir Gilbert, et puis qu'elle donne des avertissements qu'il ne faut pas s'approcher de Gilbert, et que la dame veut pas, ne le comprend pas, tout à coup elle risque de recevoir une guitare sur la tête. Et il y a eu aussi des hommes qui ont reçu la guitare, qui partaient avec la guitare. Parce qu'ils appelaient Violetta, depuis ici, donc. Violetta, il y avait les volets fermés, parce que Gilbert et elle se retrouvaient. Elle, elle revenait d'un voyage avec l'UNESCO, je ne sais quoi. Et puis, porte close. Et il y avait un Sud-Américain que je ne connais pas, mais dont on a vu des faits, qui disait « Violetta, je veux ma guitare, je veux ma guitare !» Puis Gilbert disait « Ouais, on est en train d'enfiler des perles, laisse-nous tranquille, je veux ma guitare, je veux ma guitare !» Et tout à coup, les volets se sont ouverts et clac.
Ah, il a cassé la guitare,
oui.
Hein.
Oui.
Je l'ai vu, sa guitare cassée, là. Il la gardait comme...
Oui. Ouais. Donc, elle avait deux armes.
Oui, absolument. Ouais. Claudio Venturelli, on parlait tout à l'heure de cette marche que, pour encore donner un élément de l'engagement simple et extrêmement concret de Violetta Parra, de sa marche de Genève à Lausanne.
Oui, et c'était au moment où il y avait une ligne très, très active pour s'opposer contre l'armement nucléaire. C'était ce symbole magnifique qui était ce symbole cercle noir avec trois points vers le bas. Et c'était le symbole de du désarmement nucléaire, de la paix nucléaire dans le monde. Une sorte d'idéal complètement irréel. Et cette année, en 1963, il y a eu une marche Genève-Lausanne à pied, bien entendu, par la route au bord du lac, pour montrer la force de l'opinion de Genève et de Lausanne et de Suisse contre l'armement nucléaire. Et Violetta et Gilbert, tous les deux, sont venus à cette marche. Et on a vu cette brave dame qui était tout à fait anti-sportive, qui marchait là, le long de là, et on a marché. Et je crois qu'elle est revenue, depuis Nyon. Mais on a marché jusqu'à Nyon et elle a dormi dans une paroisse qui nous avait hébergé par terre, au sol, à Nyon. Et elle faisait cette marche en jouant de la guitare, en chantant, en s'arrêtant de temps en temps sur un caillou, puis elle jouait. Elle a participé à ça avec un engagement. Et Gilbert, pareil, absolument pareil. Et c'est un souvenir magnifique parce que je ne sais pas s'il y a eu par la suite des activités de ce type-là à Genève contre l'armement nucléaire. Et Violetta faisait partie de ce petit monde-là. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce sont les côtés personnels de son engagement, plus que sa position politique. Elle n'a jamais donné un discours à l'université en disant que le Parti communiste... Non, non, son engagement n'était pas tellement partisan, au niveau militant du Parti communiste. Elle était sympathisante, très active du Parti communiste, mais elle était surtout une active participante de tout ce qui était les causes humaines. Elle parlait du paysan, elle parlait des ouvriers, elle parlait des étudiants, avec une telle force, qu'aucun parti n'a réussi jamais à évoquer ces gens-là comme elle le faisait à ce moment-là. Et c'est cet aspect-là que je voulais aussi signaler de Violetta, que nous avons apprécié et connu, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, nous qui étions les jeunes à ce moment-là, nous avions 23 ans, 24 ans à ce moment-là, nous n'étions pas sensibles à cet aspect artistique de Violetta. D'abord parce qu'elle chantait comme une casserole, ensuite parce que le contenu de ses chansons, pour le moment, n'était pas suffisamment connu, donc on entendait une fois cela. Les peintures, c'était aussi des peintures qui étaient faites...
Oui, mais vous la souteniez quand même.
Oui, on la souteniez parce qu'il y a personne... Les personnages étaient tellement attachants qu'on aurait soutenu même ces peintures qui étaient parfois extrêmement difficiles à admirer. Et pour dire autre chose, et puis ces couvertures qu'elle utilisait pour se couvrir, qui sont devenues ensuite des toiles, c'est même là qui sont devenues des toiles au musée du Louvre. Mm-hmm. Et ben ça, il y a quand même une transition qui est importante.
Alors, il y a eu à l'Université de Genève une exposition un petit peu sauvage, mais je ne voulais pas t'interrompre. Andy, bon, livre-nous ce que tu allais dire.
Non, c'est-à-dire, moi, je pense que le côté de l'art était le moteur aussi de cette relation et le fait de rester dans ces ateliers épouvantables, invivables. Mais on était extrêmement pauvres. Je pense que Violetta était aussi pauvre que nous à l'époque. Mais on n'avait pas le sentiment de misère et de pauvreté à cause de l'art, qui est un lien, soit par la musique, soit par la peinture, la broderie. Enfin, ce qui se passait, c'était quand même un lien pour très important.
Et pour en revenir à cette analogie que je tentais tout à l'heure entre Griselda Israël et Violetta Parra, merci, dans le sens où pour moi effectivement c'est la deux figures fortes et d'un engagement vraiment total, absolu, qui les a d'ailleurs menées à des situations extrêmes. Selon toi, y avait-il à l'intérieur de l'engagement de Violetta Parra une dimension féministe également? Est-ce que ça faisait partie également de son engagement? Je te dis ça également dans l'analogie que moi j'aurais fait dans mon imaginaire avec Frida Kahlo, par exemple, une autre artiste peintre qui, elle, se revendiquait d'un féminisme. Est-ce que ça, c'était présent ou
moi,
pas tant que ça?
Moi, je ne dirais pas tellement, monsieur Violetta. Non, je peux me tromper, mais... je n'ai pas eu l'impression que le féminisme en tant que tel, à ce moment-là, avait... Plus tard dans les années... Mais dans les années 60, quand elle est là à côté. Non, moi j'ai l'impression qu'elle a une révolte qui peut être au bénéfice de l'être humain, mais pas forcément.
Beaucoup plus.
D'un genre.
Totalement.
Ouais. Quand même le fait de partir dans les années 50, plusieurs années en Europe, de faire son bonhomme de chemin, d'aller imposer ses idées. Se faire connaître à Paris, c'est pas toutes les femmes chiliennes dans une société extrêmement conservatrice, puritaine, traditionnelle, qui pouvaient faire des choses comme ça. Donc peut-être qu'elle était féministe, pas dans le discours, mais dans les actes.
Oui, et moi j'ai le sentiment aussi, j'ai pas le sentiment de parti à ce moment-là. On me dit qu'elle est venue avec le Parti communiste, je suis enchantée, ils ont bien fait, mais je la sens pas endoctrinée.
Endoctrinée.
Merci. Tu vois?
Je pense que tu as raison.
D'accord.
Non, mais c'est des convictions profondes.
Mais ça transparaissait dans sa manière d'être.
Oui, oui. Elle avait des convictions humaines très puissantes.
C'était pas des discours, c'était en acte. Voilà, sa manière d'être.
C'est-à-dire qu'elle incarnait, finalement, son engagement au travers de son arrêt.
Alors, et c'était pas à travers des théories.
Voilà, tout à fait. Pour en revenir à ce déséquilibre dont on parlait au tout début de nos discussions, comment est-ce que vous l'expliquez, ce déséquilibre-là, le fait qu'au Chili, eh bien, on la connaisse quasiment pas, et qu'ici, eh bien, tout d'un coup, sa figure surgisse? Et avec cette question-là, pourquoi Genève? Pourquoi, selon vous, à un moment donné, parce qu'elle traverse l'Europe, elle va en Pologne, elle va en Union soviétique, elle va en France, et puis à un moment donné, elle fait une halte à Genève. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Milo, Gilbert, hein,
c'est cette rencontre amoureuse qu'elle fait ici.
Oui. Okay. Et puis aussi le fait que Gilbert veut faire de la musique et qu'il y a ici, il n'y arrive pas. On lui donne pas la possibilité de devenir musicien.
D'accord.
Et lui, moi j'assiste.
Mais surtout, il est revenu du Chili après son épisode archéologique avec Christian Spani. Là. Oui. Il est revenu, il a rencontré Violette. Il ne la connaissait pas depuis longtemps, à mon avis, quand je l'ai rencontrée, moi, à Buenos Aires.
Mais je me souviens toujours, Gilbert, qui disait qu'il s'était brouillé avec Jean-Christophe Spani, en plein désert d'Atacama.
Et il y a 65 ans,
Il a failli en mourir. Puis il disait, dans la nuit, je voyais des phares qui arrivaient comme ça. Puis je me mettais comme ça au bord de la route. Puis les camions passaient, zoom! Il ne le voyait même pas.
Et puis il m'a dit,
c'est arrêté. Il a dit, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui fait de la musique. Et qui l'a amené à Santiago en lui parlant de Violetta, de tout ça. C'est ce qu'il nous avait donné comme récit à l'époque.
Parce que ce qu'il m'a dit de cette rencontre avec le camion, là, il me dit, la première chose qu'il m'a donné, c'est une cigarette. Puis j'avais faim, donc la saphir. Et c'est peut-être le même, donc, qui l'a amené. Une belle rencontre.
Et quel était le regard que Violetta, depuis quand elle était ici à Genève, quel était son regard sur le Chili? Comment est-ce qu'elle voyait son pays évoluer, ce pays-là? Avec tout ce qui se passait à cette époque-là, effectivement, en Europe,
ça fait pas
mal. Je dirais qu'il y avait, comme d'habitude au Chili, il y a toujours eu des répressions anti-syndicales, anti-ouvrières, anti-paysans, anti-habitants de bidonvilles. Donc ces répressions qui étaient toujours menées par les forces de police contre ces manifestations, soit des étudiants, soit des ouvriers, Violetta était toujours très sensible à ça, très sensible. Et si elle avait pu, peut-être si elle avait vécu les années qui ont suivi, je crois qu'elle serait morte, on n'aurait pas eu besoin s'est suicidé, et de rage, elle s'en monte de rage, d'horreur de voir ce qui s'est passé après. Mais à ce moment-là, il y avait une tradition de lutte syndicale, de lutte populaire, des marches, des étudiants dans la rue, et Violetta soutenait, appuyait tout ça. Mais je ne l'ai jamais vue dans une position de leader politique. C'était toujours une leader uniquement du point de vue humain.
Voilà. Ouais.
Pour répondre à la question que tu disais, pourquoi serait-elle venue à Genève? J'ai une réponse qui n'est certainement pas la bonne, mais parce qu'il y avait Gilbert qui était ici. Et la deuxième chose, la deuxième raison, c'est que Gilbert a réussi à créer l'unique bidonville de Genève dans cette petite galerie à cinq chambres qui était la 15 rue Voltaire. Il a réussi à faire le seul bidonville de Genève et pour accueillir Violetta qui s'y sentait très très bien.
D'accord. C'est la cour des miracles.
Exactement. Alors justement, quelles étaient ces conditions, les conditions de vie dans cet endroit qui est effectivement quand même, on peut le dire, austère pour le moins.
Ah ben oui.
Même en 62.
Quand elle arrive, donc elle arrive en 62, 63
63.
Elle reste pas très longtemps à Genève. Quand elle arrive,
Quand elle arrive, elle s'installe directement avec son amoureux ou d'abord elle... Enfin, ça se fait...
Alors juste, moi, là, je la vois sur le bateau, là. Donc quand j'ai rencontré Gilbert, ça c'était en... J'allais au Chili, c'était en septembre, c'était en fin août. Et elle a été en Helsinki. Et puis quand est-ce qu'elle est arrivée à Genève? Moi, je la retrouve donc début 63. Donc c'est entre septembre, octobre, disons octobre, novembre, décembre, qu'elle est arrivée à Genève avec Gilbert, parce que Vachou lui a payé son billet, puis qu'il a pu retrouver Violette. Et puis surtout se réconcilier, parce que j'ai assisté à plusieurs brouilles. Et là, quand il est allé au bateau, on s'est rentré le jour même, il m'a dit « Ah, mais j'en sais brouillé, il faudrait quand même que j'aille au bateau. » Si on est arrivé trop tard, elle était déjà sur le bateau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre octobre et... Voilà. Mais disons que c'est la période où il l'a ramené à Genève. Mm-hmm. Voilà.
Donc, hop, ils arrivent au 15 rue Voltaire. Et là, qu'est-ce qu'on trouve comme condition? C'est un deux pièces.
Deux pièces, avec un escalier petit, mais... pour monter dans ces deux pièces, où, tout comme nous, Gilbert et Violetta, ils ont deux pièces avec électricité et l'eau froide.
Mais pas de petit coin.
Non.
Pas d'eau chaude.
Pas d'eau chaude. Voilà,
des conditions
pas de chauffage. Ouais. Alors,
pas de chauffage.
Violetta, elle nous a fait peur, hein, aussi. Elle nous a fait trembler. Parce qu'on allait vers elle, parce qu'il fallait quand même que je sorte de mon appartement de deux, trois pièces, avec Olfrat, pour aller chez Gilbert. Et on trouvait souvent Violetta avec un brasero qu'elle avait fait au milieu de cette cuisine qu'on voit là-dessus. Alors ça la chauffait, ça lui donnait de la lumière. Ça lui permettait de broder, de peindre, de sculpter. Elle était assise par terre.
Puis c'était beaucoup, il y avait beaucoup de bois là.
Il n'y avait que du bois.
Ah oui, c'était du bois, oui.
Et ce brasero là. Ouais, donc en plus, il y avait des risques. D'accord, donc
des
conditions pour le moins spatiales. Hein. Ouais. Et les gens autour qui la fréquentaient, c'était des gens du quartier. Comment c'est? Est-ce que c'est vie, c'est réseau? Bon,
moi, je pense que Gilbert est aussi un homme de contact. Parce que Gilbert, dans n'importe quel milieu où il va, il est à l'aise. D'accord. Et il fait des liens, des connexions. Moi, je vois quand il est venu à mon mariage, c'était un 13 juin. Il est arrivé il a pris un billet de train jusqu'à Neuchâtel. Mais après, il n'avait plus d'argent. Alors, depuis Neuchâtel, Auvergne, il est venu à pied. 13 juin, il faisait grand beau et chaud, avec un gros pull noir. Et puis, il a dit, mais pourquoi t'as mis ce gros pull noir? Ouais, c'est la meilleure chose que j'avais dans mon armoire. Hein. Et puis, il n'avait pas d'argent. Et puis, ma famille, c'est une famille de propriétaires, conservateurs, vignerons. Il a même séduit mon grand-père. On n'a jamais compris comment. Il a séduit tout le monde qui était là. À tel point que Daniel et moi, on est partis parce qu'on n'avait plus rien à faire avec cette famille qui n'en avait que pour Gilbert.
D'accord.
Oui, je pense que l'originalité de Violette a le côté excessif, et Gilbert l'avait aussi. Ils ne pouvaient que se rencontrer, ces deux. Oui. Ça, c'était évident. Oui. Et puis se friter de temps en temps.
Ah ben parce oui.
Mais elle était vache avec lui, hein, parce que à Gilbert, il a gueulé, et puis il a lancé des trucs des fois. Et puis elle avait quand même le sens de l'humour. Je me rappelle un jour, il m'a dit, Tito, tu pourras m'accompagner, j'avais une petite voiture que j'avais achetée pour 3 fois rien, à tel endroit et tout. Je lui ai dit, oui, pas de problème. Je viens demain à la rue Voltaire, en hiver, en froid des canards. Et puis en sortant de chez elle, il y avait une plaque de glace comme ça, devant la porte, et puis elle a glissé. Elle, là, puis elle s'est cassée la figure, puis elle s'est lève.
Mais j'en parle ce
soir. Comme ça, très, très fier. Il dit, sujet tombé par terre, c'est la faute à Voltaire.
Ouais, donc en même temps, de l'autodérision, on peut dire.
Ça, c'était super, j'ai trouvé.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle était... est-ce que la vie culturelle, artistique, sociale genevoise était-elle Violetta compatible?
Elle a quand même épousé chez Engelbergs. Elle a...
Chez qui?
Engelbergs.
Oui.
Dans la galerie. C'était une galerie importante.
Puis chez Blanco aussi.
Oui. Donc, elle a réussi à pénétrer, à mon avis, la société genevoise. Hein.
Et puis l'université, là,
oui,
elle a
fait.
Voilà, il y avait cette exposition qui a eu lieu à l'Université de Genève. Oui. Donc, il y avait cette forme de reconnaissance dont elle souffrait qu'elle ne soit pas.
Chilienne.
Au Chili, voilà, qu'elle ne soit pas présente au Chili.
Mais moi, je me demande si au Chili. Peut-être dans les classes sociales à elle, si elle n'était pas reconnue. Peut-être pas par la bourgeoisie.
Oui, mais peut-être d'une autre manière ailleurs.
Oui. Pas,
je suis resté 2 mois au Chili avec l'idée que j'en avais, parce que j'avais connu.
Oui.
J'ai eu l'impression
non.
Que non. J'en parlais parce que cette fois, j'ai dit, Violet.
Aujourd'hui, on en parle tellement qu'on s'est dit que c'était une héroïne nationale.
Oui.
Alors qu'on me parlait de Margot Loyola.
Ah, c'est, oui, bien sûr, parce que Margot Loyola était d'un niveau différent au niveau folklorique et au niveau musical et puis, au niveau de la personne aussi. Violette a été la
paria.
Et alors, on en a parlé, hein, pourquoi est-ce qu'elle arrive à Genève, dans quelles conditions? Alors pourquoi quitte-t-elle Genève? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en 65, si je ne me trompe pas, elle s'en va? Et elle s'en va pour où à ce moment-là d'ailleurs?
Paris.
Paris.
D'accord, à ce
moment-là. Mais c'est là où il la ramène après parce qu'elle fait une hépatite.
Je l'ai ramenée à moi un jour parce que c'était une. Enfin bon. Elle est. Je pense qu'il y avait. Là, parce qu'il y avait ses deux enfants qui jouaient à l'Escale ou à la Candelaria. Et puis elle à l'Escale, puis à la Candelaria. Donc elle avait un petit revenu, ses enfants aussi étaient là, je pense que c'est pour ça. Elle avait un petit revenu.
Mm-hmm.
Ouais. Ouais, elle était là. Voilà. Elle habitait au 5e étage, 6e étage, au-dessus de la Candelaria. Et puis, elle pouvait manger. Elle avait un petit appartement. Elle vivait là. Non, moi il y avait un grand lit. Il y avait la tita, la Hermana Luisa.
Carmen
Luisa. Et puis, ils dormaient tous dans le même lit. Mm-hmm. Mais je pense que c'était une question financière. Parce que Gilbert n'a pas pu la maintenir, probablement. Parce que lui,
Il
n'avait
pas d'argent.
Il n'avait pas d'argent non plus, jamais. Il n'en a jamais eu.
Donc il n'avait pas une famille non plus qui pouvait le soutenir financièrement.
C'est un exil financier, donc en partie, peut-on dire. Enfin, lorsqu'elle part de Genève, c'est parce qu'elle trouve à Paris peut-être un...
Mais elle n'a pas eu des contrats avec l'UNESCO à un moment donné.
Ça, c'est Isabelle.
C'est Isabelle.
Je crois en tout cas Isabelle en a eu.
Mais il me semble que Violetta.
Voilà, alors, on en arrive au moment... Il y a un parmi les moments de l'existence de Violetta Parra qui est... extrêmement douloureux, c'est la rupture. Une des ruptures avec Gilbert Favre, son amoureux ici à Genève, qui a d'ailleurs, il me semble, donné lieu à une chanson également.
Je ne suis pas sûr que ce soit lui, qui est parti au nord, c'est quelqu'un qui est venu après. Mais je ne suis pas si sûr que je puisse l'affirmer.
Okay.
Je crois que nous avons tous associé Rum Rum à Gilberto Favre, Gilbert Favre, qui est parti à ce moment-là en Bolivie, mais je ne suis pas certain que que le ronron de la chanson, ronron se fait par le nord, soit associé à Gilbert. J'ai l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Ronron, entre parenthèses, au Chili, ça veut dire c'est cette petite fiche métallique que se fait avec un bouton ou avec une couvercle de boisson aplatie, avec deux trous et deux ficelles qu'on fait une sorte de. Ronron, ça veut dire qu'il y a
ça fait
zoom, 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 zoom. Et c'est dans cette idée-là qu'elle rapprochait à cet amoureux de ce moment-là qui s'en allait, qui revenait, qui s'en allait, qui revenait.
D'accord. Là, on peut dire que c'est quand même un moment extrêmement délicat dans l'existence de Violetta Parra. Là, elle déguste, peut-on dire.
Je pense qu'elle en a eu d'autres, un moment délicat.
Oui,
c'était quelqu'un d'excessif, donc elle ne pouvait que. On en a connu un autre, c'était Scanes.
Oui, c'est encore un de ces hommes qui ont passé un moment à côté de la vie de Violetta, et plus qu'à côté, et qui ont subi. Et les hauts et les bas du caractère de Violetta. Et Scames, c'est un écrivain, c'est un peintre, un excellent peintre de la période de la jeunesse de Violetta Parra, et il avait avec elle une jolie petite liaison. Et un jour, Violetta donnait un concert à l'Université du Chili, où il y avait juste une chaise, un peu comme Georges Brassens, juste une chaise au milieu de la scène, et une bonne partie du public sur la scène, sur la salle de l'Université du Chili, à la maison centrale. Et elle était en train de faire son concert, et Julio Scames, qui a su qu'il y avait Violetta qui était là, mais avec qui il avait eu un petit incident, une petite étincelle avec elle. Alors il est venu, mais pas tout de suite, il est venu un tout petit peu plus tard, quand elle était déjà en train de chanter, puis il s'est faufilé pour aller s'asseoir. Et Violetta qui chantait ça, qui était en train de continuer, tout d'un coup, elle s'est arrêtée devant tout le public à la salle de l'Université du Chili à ce moment-là, qui était quand même un rapport plus ou moins important.
Elle a sorti
elle a vu qu'il y avait Julio qui arrivait avec une jambe dans le plâtre parce qu'il venait d'avoir un accident. Alors, il s'était approché, puis s'était assis. Et quand elle l'a vu, elle a hurlé, elle a dit quelque chose d'extrêmement grossier à ce moment-là, que je ne me permettrai pas de répéter, mais... Elle l'a traité de fils de plusieurs choses, et il est descendu de la strade, et en courant après, et Julio a réussi, c'est lui qui nous a raconté ça après, a réussi à s'échapper en boitant, en sautillant sur une patte, et elle l'a suivi jusqu'à dans la rue. Son concert a été interrompu, comme elle n'a pas pu le suivre plus loin, elle est revenue, elle a repris la guitare, et elle a continué à chanter.
C'est une jolie anecdote, hein, qui en dit long.
D'ailleurs. Oui, donc en tout cas, on ne peut pas dire que Gilbert est un cas particulier dans la relation avec Gilbert.
D'accord.
Je ne pense pas, parce qu'on en a connu d'autres.
Je vais encore vous poser quelques questions, puis après je vais vous laisser tranquille, hein, parce que ce soir, vous avez encore beaucoup à dire. Mais j'ai encore peut-être rapidement deux, trois questions. Selon vous, y avait-il dans l'esprit de Violetta Parra quelques figures tutélaires ou quelque chose qui faisait partie de son inspiration? Où puisait-elle son inspiration? J'ai bien compris, elle a voyagé dans le Chili, c'était une éponge, elle s'imprégnait des choses. Ensuite, également en Europe, il y avait ces relations tumultueuses avec le genre humain. Mais y avait-il, selon vous, des figures? Je ne sais pas, ça pourrait être Atahualpa Yupanqui, ça pourrait être... je ne sais pas, à vous de me dire si vous sentez quelque chose là-dedans ou pas du tout, et qu'effectivement, elle puisait son inspiration ailleurs, dans un enracinement, dans la complexité du Chili. Dans sa diversité, ou quoi?
Dans son enracinement au Chili, et je ne vais pas le raconter maintenant, mais elle a fait des enregistrements dans tout le Chili, et je raconterai ça ce soir, je ne vais pas déformer. Ouais. Et je pense que ça, c'est une grande source pour elle. C'était son pays, c'était sa terre, sa chair, et c'était son inspiration, plus que quelqu'un, me semble-t-il. Mmh.
C'est une belle réponse.
Oui, Jean-Jacques.
Je ne sais pas comment dire ce que je ressens là. Parce que j'ai l'impression que c'était l'effet de la vie qu'elle avait autour d'elle qui la faisait vibrer. Mmh. Et puis à ce moment-là, il pouvait sortir une chanson, un dessin, une peinture.
Puis peut-être que les succès qu'elle a quand même connus en Europe, à Genève, à Paris, bon. Et surtout à Genève avec les expositions
je sais pas comment
et avec l'exposition au Louvre, lui a donné aussi la volonté de continuer son œuvre au Chili, son œuvre auprès du peuple, son œuvre de recollection de la poésie et du Chili. Mais malheureusement, ça termine un peu tristement avec la Carpa Reina qui n'a pas de succès. Alors pourquoi? Est-ce que ça n'a pas marché? J'ai un peu l'impression, en lisant sur ce sujet, que ses enfants ont plus de succès qu'elle dans ces années-là. Enfin, pourquoi elle décide de mettre fin à ses jours? Il y a toujours une part d'énigme dans les suicides.
Ça peut monter de très loin.
Mais mm-hmm. ses enfants ont plus de succès parce qu'ils sont nés à une autre époque. Elle est d'une autre époque. C'est tout.
Elle était peut-être en avance, effectivement. Oui, oui, oui.
Donc, mais c'était pas facile pour Andrel quand ils étaient ici. Hein. Je me souviens. On a beaucoup parlé. Bah, c'était des heures de souffrance aussi pour eux.
Oui, mais c'était pas facile. Hein?
Non, parce qu'elle les amenait en Italie, puis elle les abandonnait.
Oui, oui, non. C'était quelqu'un d'excessif. Oui. C'était comme sont beaucoup de créateurs. Enfin,
un peu intuitif. C'est ça.
Il y avait une espèce d'éponge qui. Là, on ne s'en rendait pas compte, nous. Hein. On ne pourrait pas penser qu'on serait là aujourd'hui pour en parler comme ça.
Elle a influencé ses enfants musicalement, je veux dire, en les obligeant à jouer comme il faut, à jouer bien. Mm-hmm. Si elle ne chantait pas très bien, elle savait très bien la musique, elle la connaissait très bien. Ah, oui. Et Angel et Isabelle ont réussi à faire leur propre carrière musicale. À partir de... Parce que quand ils étaient ici, Angel, il avait 20 ans, même pas.
Il avait 20 ans.
20 ans quand il était ici à Genève. Et il gratouillait, comme n'importe quel jeune à cette époque-là, la guitare et la voix. Mais c'est après qu'il est devenu un très bon chanteur, avec une voix beaucoup plus rauque. La voix d'Isabelle était magnifique, mais sa guitare non plus n'était pas terrible. Violetta les a conduits plutôt, en disant, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que la musique. Vous devez faire de la musique. Aucun des fils de Violetta a fait des études qui permettent d'imaginer qu'il aurait pu devenir, je ne sais pas. Non, c'était musicien ou rien.
Oui, mais elle avait beaucoup de respect pour cette musique, pour l'expression. Elle demandait un niveau, même si elle...
Elle avait le sens. Oui. Elle avait le sens artistique.
Oui.
Mais vraiment...
Puissant.
Mais par exemple, la formation musicale de Gilbert Favre à un instrument qu'il ne connaissait pas, qui était la quena, c'est juste le tube en bois avec une dizaine de choses. Hein. Et quand Violette a commencé, elle, à lui apprendre la quena, alors qu'elle n'avait jamais joué, enfin je ne l'ai jamais vu jouer, elle, en tant que musicien, elle, la quena. Mais elle prenait la quena devant nous, là, puis elle disait, regarde, écoute. Et puis elle jouait une mélodie. Et une fois, deux fois, tu dois obtenir ça et ça et ça. Et elle passait la flûte à Gilbert et elle l'envoyait de l'autre côté de la cour des miracles, de l'autre côté là où il y avait des chambres avec des bottes de foin, elle l'envoyait là-bas et puis de temps en temps elle levait l'oreille et disait « Oui, là c'est bien !» Elle était en train de parler avec nous et tout d'un coup « Là c'est bien !» Et puis Gilbert revenait tout content.
En plus c'était des quenas qu'on ne trouvait pas ici, il les fabriquait.
Pour devenir par la suite la première quena de la Bolivie. Gilbert est devenu el tocador afuerino, les meilleurs quenistes de Bolivie pendant un moment.
Reconnu par les gens.
C'était un Suisse, genevois, souffleur de saxophone.
Sous l'influence quand même, sous l'influence
qui lui balançait des souliers sur la figure quand il revenait que la mélodie n'était pas.
C'est génial.
Il faisait les masques.
On arrive doucement, on en est à l'heure de... J'ai encore deux questions et puis ça va si effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne vous attendez évidemment pas à être ici aujourd'hui pour opérer cet hommage, tout ça, tout ça. Alors, du coup, vous y êtes quand même. Ouais. Alors, quel est maintenant, quand vous vous retournez en arrière, avec toutes ces années qui sont passées, toutes ces trajectoires, ou ces trajectoires, disons, extrêmement... protéiforme, hein, développé pas. Comment est-ce que vous voyez cette trajectoire-là? Vous, si vous deviez en dire quelques mots maintenant, quel est le souvenir que vous avez avec cette distanciation au travers des années de la trajectoire de Violetta Parr? C'est une trajectoire effectivement extrêmement singulière.
C'était, pour moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup sécurisée à l'époque, parce que j'avais juste 20 ans, j'étais toute jeune. J'avais pas une idée très précise. précise de la politique, de ce qui pouvait se faire, revendiquer. Je n'avais même pas le droit de vote à l'époque. Et puis, je pense que dans nos difficultés de vie, on a pu rester quand même soudés ensemble, malgré les distances entre le Chili, la Suisse ou autres. Il y a quelque chose de très fort qui est sorti de ça et qui, moi je dirais, nous a permis de ne pas rentrer dans un parti.
D'accord.
De ne pas être soumise aux lois d'un parti où tu ne peux plus dire ça, tu dois... la raison d'État et compagnie.
Et puis il y a un lien indissoluble, j'ai l'impression qu'ils se sont tissés très rapidement.
Oui.
Parce que finalement, ça, enfin, sur l'ensemble des années de vie, vous vous êtes touché que quelques années,
oui.
Mais on peut dire que à partir de ce moment-là, les liens étaient indissolubles.
Par Griselidis, par Violetta, et puis j'ai regretté que Violetta n'ait pas connu mai 68, puisqu'elle est morte avant. Mm. Parce que mai 68 a aussi été tout à coup ces liens qu'on a pu avoir dans la cour des miracles, on pouvait les avoir beaucoup plus vastes.
Ouais.
À Genève.
D'autres remarques concernant cette trajectoire où je pense.
Non, je voulais simplement dire que je suis très content. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au départ, mais ça ne devient qu'une habitude avec les années. Et que Violetta n'aurait, c'est peut-être très personnel ce que je veux dire, mais Violetta n'aurait pas été très contente de cet endiosamiento, de cette sanctification, déification qu'on a fait d'elle. Elle n'est de la grande poétesse. Non, elle n'était pas une grande poétesse. La grande folkloriste, non, ce n'était pas une grande folkloriste. Elle allait vers les peuples, elle allait les faire chanter, l'écouter, et elle interprétait ses musiques aussi, elle les adaptait à sa propre...
Mais le
monde qui aujourd'hui bave devant elle, et quand je dis bave devant elle, profite aussi de sa renommée, c'était pas ce qu'elle aurait préféré. Et je suis très content de voir qu'on est en train, on a réussi à faire. Il y a un livre qui vient de sortir au Chili, qui a été écrit par un journaliste qui n'a pas connu Violetta, mais qui a suivi son chemin pendant des années, Victor Herrero, les 100 ans, 100 años, comment ça s'appelle? Il y a une chanson de Volver a los... Non, c'est pas Volver a los 17. Il y a une chanson qui dit. Aïe! Non, c'est 100 ans, Violetta, Después de vivir un siglo. C'est ça qui s'appelle. La chanson s'appelle Después de vivir un siglo. Et Violetta apparaît dans ces livres-là comme quelque chose qui n'est pas du tout ce qui aujourd'hui fait la vernis et qui brille partout. On parle de donner le nom de Violetta à une station de métro, à une ceci, à une cela. Violetta aurait rigolé, mais l'horaire hurlait de rage de savoir que. Je crois. Je me trompe peut-être.
Mais alors, moi, je sais pas, une question, hein, ça n'engage qu'à moi. Je pense que Violetta, elle a été un peu déçue des enfants. Parce qu'elle était une chanteuse pour le peuple, elle chantait pour le peuple. Tandis que les enfants, autant Angel que Isabelle, quand ils se sont vraiment lancés dans la chanson, c'était pour le fric. C'était pour gagner du fric.
Alors là, quoi? Je vais être très direct quand même. Tu dois manger. Il devait manger, tu comprends? Ça, il faut pas, on ne peut pas leur en vouloir.
Et puis elle mange aussi.
Mais oui.
Mais
ça engendre des douleurs quand même d'être très pauvre. Ça engendre des douleurs.
C'est trop qu'elle a, elle a pas. Elle a vu que ses enfants ne l'ont pas suivi. Elle espérait peut-être autre chose. De ses enfants.
Ça c'est
une opinion à moi.
Mais ils ne pouvaient pas faire vœu de pauvreté, en fait, pour eux. Ils ont dû gagner leur vie. Moi, je me souviens d'un qui est à la Candelaria, à l'Escale, pour gagner un petit peu d'argent, pour manger à Paris, c'était pas évident. Non, on parle aussi d'un qui est comme ça, il était célèbre, il a fait des dits, etc. Ouais. Mais à l'époque, en 62, 63, 64, moi j'ai vu... Ils vivaient de rien, ils vivaient dans une chambre misérable que l'escale leur mettait à disposition. Il faut manger.
Emmanuel, et puis après on fera un tour de table final, avec peut-être une anecdote, un souvenir personnel.
Oui. Moi, ce serait mon mot final, parce que je n'ai pas connu Violetta, donc j'ai pas, je ne peux pas vraiment dire des choses extrêmement profondes sur elle, sa personnalité ou sur sa famille. Par contre, ce qui me frappe en faisant des recherches sur elle et sur Gilbert Favre aujourd'hui, ou en rencontrant des gens qui l'ont... qui l'ont connu ou qui ont connu Gilbert Favre, c'est l'importance de ces figures pour la Genève d'aujourd'hui, pour la Genève internationale, multiculturelle, celle qu'on aimerait mettre en valeur. Donc, comme l'a rappelé, je crois que c'était Anne, je ne sais pas, Violetta apprend avec Gilbert Lakena. Gilbert, lui, il reprend l'idée de la Carpa, Reina, c'est l'université du folklore que Violetta voulait créer à Santiago, en Bolivie, et il est aussi engagé dans une même démarche qu'elle, qui consiste à mettre en valeur la culture qui est négligée, la vraie culture populaire, à travers toutes ses expressions, la musique, la danse, la peinture, et la Peña Sagarnaga, à La Paz, elle a un certain succès, et puis surtout, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que dans les associations boliviennes, celles que j'ai rencontrées, Bolivienne UEV, Centre interculturel bolivien, on veut perpétuer cet héritage. On pense qu'il y a une musique afro-bolivienne, une musique de la flûte du lac Titicaca, la musique des Sicuri qui doit être mise en valeur, que c'est aussi la musique des Indiens qui n'ont jamais pu accéder à une reconnaissance dans et une musique qui débarque dans les centres urbains. Et Gilbert Favre, il a, comme vous l'avez dit, permis à cette musique d'être connue ici à Genève, mais avant sur place. Et il fait une carrière internationale assez, assez étonnante. Et après la mort, alors, dans le film de Luis Vera, il y a, je crois que c'est Alfredo Dominguez ou Cavour qui explique qu'ils ont appris la mort de Violetta en Bolivie et que... Gilbert en est très affecté, mais il revient dans les années 70 et il continue à vouloir transmettre cette musique et avec sa personnalité charismatique, ce magnétisme qu'il avait, que tu as très bien décrit, Anne, il réussit à intéresser les jeunes voix à cette musique. Il veut créer à Russin un festival et avoir un contact direct avec la Bolivie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il intéresse des Suisses à ça. À l'époque et encore aujourd'hui, il y a des groupes de musique où on joue de la musique autochtone sans guitare, qu'avec de la flûte, que de la quena et que des percussions, et que ça mélange des groupes, des Péruviens jouent avec des Boliviens, malgré les différents politiques, il y a une communication qui se fait entre les Chiliens et les Boliviens sur ces sujets, et qui passe aussi par les Suisses, je le vois, qui sont à la base. On ne leur transmet pas cet héritage dans la famille, mais ils rencontrent des personnes, ils décident de voyager sur place, ça change leur vie. Et donc moi je pense que l'histoire de Violetta et de Gilbert à Genève, c'est toute la richesse de la Genève multiculturelle qu'on a envie de...
Et qui existe encore.
Qui existe encore, et puis qui existe grâce aux associations, oui. Associations qu'il faut soutenir parce qu'on ne les soutient pas assez, oui. Dont les financements sont discutés, remis en cause.
Moi, j'ai trouvé ça extrêmement important. Il y a 2 ans, on a fait l'occupation au Grutli avec les requérants d'asile qui habitaient sous terre. Et je me suis beaucoup battue dans ce mouvement pour dire, mais il y a des musiciens avec nous, il y a des chanteurs, il y a des batteurs, il y a des gens qui savent dessiner, qui savent peindre. Pour mettre tout ça en place, parce qu'on avait beaucoup de gens de Genevois qui venaient nous voir pendant cette occupation. Et je disais, mais s'ils viennent voir le groupe de musique, c'est beaucoup plus fort que s'ils viennent voir les déboutés, toute cette population qu'on n'aime pas, les requérants d'asile qu'on met en prison. Mais au contraire, de voir quel était leur potentiel, et ils ont beaucoup, il y a beaucoup de potentiel. Ça, c'est des choses à souligner.
Et également la fondation qui fait ce travail, j'imagine, de souvenir et qui est menée par Isabelle, il me semble encore. Donc la fondation Violetta Parra qui œuvre pour justement.
Et le musée à Santiago, qui est partenaire de l'événement d'aujourd'hui et de la table ronde et du spectacle musical.
Alors, pour conclure doucement cet entretien, voudriez-vous peut-être énoncer un petit souvenir, une petite anecdote un petit peu personnelle que vous avez pu traverser au contact de Violetta Parra?
Je vais donner un petit bijou que je garde très souvent uniquement pour moi, mais maintenant je ne sais pas à qui je vais éparpillés à cause de vous. C'est que les jours où ma femme a accouché de notre fille aînée, ma première fille, quand nous l'avions attendue pendant tout le temps qu'il faut pour ça, et Violetta était, et elle suivait, regardait, elle accompagnait ça, et elle demandait qu'est-ce que c'était cet enfant qui allait venir. Et nous avons, bien entendu, dans un machisme primaire, décidé que c'était un garçon. Et puis, en tant que garçon, il allait porter en plus un nom d'Indien, Mapuche, Lautaro. Lautaro. Et Violetta me parlait toujours de Lautaro. Regardait le ventre de ma femme, elle disait, alors, et Lautaro, comment va-t-il? Elle lui parlait comme ça. Et puis, quand Lautaro est né, je te disais, il manquait quelques petits détails qui font la différence. Et quand je suis arrivé voir le matin même, voir Violetta, j'ai dit, écoute, à cause de ces choses qui ne sont pas venues, et il ne s'appellera pas Lautaro, et il aura un autre prénom de fille.
C'est une fille.
Et alors, elle a fait quelque chose, encore aujourd'hui, j'ai un peu d'émotion à le dire, elle s'est penchée vers la cage en bois qui était à côté de son lit, couverte avec ses toiles de Louvre, qui à ce moment-là n'était pas encore des toiles du Louvre. Elle s'est penchée et elle a retiré de son table de nuit un bout de papier. Un bout de papier pas plus grand que ça. Hein. Elle écrivait toujours dans des bouts de papier absolument merdiques. Et puis, elle prend le papier et chla. Elle le déchire. J'en étais tout seul, puis je la regarde, puis je dis, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'était une chanson pour Lautaro, me dit. J'ai dit, mais et tu veux pas me la chanter à moi, ou moi, à moi, juste un moment? Ben non, il dit, c'était pour lui, c'était pas pour toi. Et va te faire. Et voilà, c'était les souvenirs, les derniers souvenirs que j'ai, un des derniers souvenirs, comme ça, vitaux de Violetta. Ma chanson pour mon Lautaro qui n'avait pas ce qu'il fallait.
Merci. Un divan, un souvenir qui ressurgit comme ça. Quand tu as envie de livrer ou pas.
Moi, un des souvenirs les plus violents, mais je l'ai raconté tout à l'heure, non, avec la protection de la jeunesse. Oui. Je l'ai dit. Hein.
Oui.
Oui.
Oui, alors effectivement, on dit, hein, ça peut aussi effectivement être des souvenirs joyeux, ça peut être un instant.
Écoute, c'était un moment de libération pour moi et Daniel quand on était avec Violetta, par rapport à la rigidité de mon milieu de vignerons et d'alcool, c'était quand même...
Une ouverture,
une respiration, quelque part.
D'accord. Mm. Ok.
Elle a écrit des poèmes qui s'appellent Las Décimas, et Michel Milner l'a chanté il y a 3-4 ans.
Oui.
Et je reviens sur ce que dit Claudio, les coups de papier sur lesquels... Je me souviens, dans cet appartement où elle habitait, au-dessus de l'escale, ou la Candelaille, à Paris, un jour, elle me montre des bouts de machin, mais vraiment, des bouts de papier. Elle écrivait Las Décimas, à ce moment-là. Et pour moi, je regarde ça, puis je l'écris. C'était vraiment la chose qui me laissait le moins intéressé... et qui est devenue ces fameuses décimas. Donc là aussi, ça montre le fossé qu'il y a entre ce qu'on sait aujourd'hui. La décima, c'est bon, moi j'ai le dit, j'ai écouté Michel, mais quand j'ai vu ça, c'était
ça a pris forme.
C'est le bout de papier, quoi. Voilà.
D'accord.
Et ça, c'est bien violette, à ça. Oh, je suis en train d'écrire ça.
On aurait pu parler de la mère de Gilbert aussi. Ça, c'est un personnage.
Ça, j'aimerais bien qu'il m'en parle.
Ah, ça, c'est ça, les discussions de ça.
Bah, c'est pour ça que je l'ai rencontré à Buenos Aires.
Tito, une anecdote.
Non, le jour que Violetta s'était engueulée avec mon frère, à cause de ses porotos,
oui,
qu'il avait... Mais qu'est-ce que t'as contre mes porotos, c'est tout. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, là? Quelqu'un a dit, non, est-ce que hijo de puta? Non, c'est sûr. Est-ce que hijo de puta? Et je lui ai dit, Violetta, c'est mi hermano.
C'est mon frère.
Et puis elle me répond, oui, tu madre est une santa, pero él es un hijo de puta.
Ben voilà, ça c'était une anecdote drôle aussi. Parce que c'est encore la dernière chose que j'aurais envie de vous demander, c'est pour quelqu'un qui découvre à peine, qui avec ce podcast-là, qui découvre la vie et l'œuvre, entre guillemets, de Violetta Parra, s'il fallait que cette personne-là commençât par une chanson pour entrer dans l'ensemble, dans cette diversité, dans tout ce qu'on a dit de cette personne complexe, selon vous, et y aura-t-il peut-être un consensus, par quelle chanson est-ce qu'on devrait commencer? Est-ce que c'est par cette chanson la plus connue, dont on peut dire que c'est Gracias a la Vida, ou d'autres chansons?
Elle n'était pas qu'une chanteuse aussi, c'est ça?
Ouais, voilà, tout à fait.
Donc, exactement, on a oublié. Que...
Exactement.
Mais je trouve que la chanson de Violetta, c'est une très bonne introduction pour quelqu'un qui ne connaît pas, parce que quand on passe la chanson, les gens disent « Ah oui, je l'ai déjà entendu !» Mais ils n'ont pas pensé que c'est quelqu'un qui l'avait créé. Que c'est quelqu'un
Gracias a la Vida.
Si. Ouais. Mais presque tout le monde l'a entendu, cette chanson.
Dans une version ou l'autre, hein, parce que oui, c'est le sens qui la chante extrêmement bien également. Oui, et donc,
oui, on est d'accord.
Et c'est vrai qu'elle contient le fait qu'une personne protéiforme, enfin, en tout cas dans les paroles de cette chanson, on sent qu'il y a autre chose. Il y a la musique, certes, mais aussi cette humanité, cette volonté humaine.
Puis c'est une bonne introduction pour les gens, parce qu'après, ils peuvent aller ailleurs. Chercher ailleurs. Ou pas, parce que ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles.
Alors, on a une forme de consensus, peut-être?
S'il y avait une chanson, pour moi, il y en a une qui devrait introduire et qui résume Violette, déjà dans le titre. Elle n'est pas réellement d'elle, d'ailleurs. Que pena siente l'alma.
Ah, si. Ah, ouais.
Elle n'est pas réellement d'elle, parce que c'est dans... Je raconterai ça ce soir. C'est des choses qu'elle a retrouvées. Mais pour moi, elle résume tellement bien le personnage. C'est elle.
On conclut avec ceci. Alors, je vous remercie énormément pour ce moment. On a passé 1h20 ensemble à discuter de cela. Je vous souhaite bon courage pour ce soir.